Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
Nicolas Paolorsi.
L'after jusqu'à minuit, il est 23h27, on est avec Sébastien Piocel, on est avec Thibault Leplat, on va se plonger désormais dans le dossier des Girondins de Bordeaux. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors oui, le COMEX de la Fédération Française de Football a sauvé les Girondins de Bordeaux. Sur les 14 membres du COMEX, 4 se sont abstenus de voter, 9 ont voté pour le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Un membre a voté contre. Le COMEX qui a donc suivi les recommandations du CNOSF. Je vous rappelle que c'était un avis consultatif à la base. Donc le dossier a été jugé solide. Ce qui a fait notamment la différence, ce sont les accords qui ont été homologués par le tribunal de commerce de Bordeaux. La justice avait vraiment donné de l'épaisseur à ce dossier-là. Et donc Bordeaux va repartir en Ligue 2. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que sinon, je vous rappelle que c'était la mort du club, la perte du statut professionnel, plus de centre de formation, plus d'équipe féminine. Donc ça veut dire que Bordeaux continue d'exister. Par contre, ça veut dire aussi qu'il y a une saison à préparer avec un Bordeaux-Valenciennes dans 3 jours au Matmut Atlantique, avec une équipe qui est complètement amoindrie, qui va être très très jeune sur le papier. Donc on se demande si les Girondins peuvent être performants cet été. On a reçu tout à l'heure dans l'after Gérard Lopez, le président des Girondins. Il a répondu à cette question.
Nous laisser travailler librement, ça veut dire aussi ne pas donner l'impression à des clubs acheteurs qu'on doit absolument vendre, parce que c'est ce qu'il y a de pire pour effectuer les ventes. Donc on a aussi des ventes à effectuer et des offres déjà qu'on a. Et sur les arrivées, on a un projet qui plaît beaucoup. Donc on a des joueurs qui ont su être patients, qui attendent en fait qu'on puisse les faire venir. Donc si on peut travailler normalement, on aura des départs, on aura des arrivées. Effectivement, on aura, on va dire, 7 et 8 joueurs qui viendront. Et avec ça, on aura une équipe très compétitive. Maintenant, comme j'ai dit, on est une entreprise qui se porte bien, qui a été assainie, hein, ce qui a été reconnu par différentes instances. On aimerait pouvoir travailler normalement et calmement maintenant comme un club de foot normal.
Voilà Gérard Lopez qui annonce 7 à 8 recrues si tout va bien, parce que il y a encore quelques zones d'ombre, hein, qui subsistent autour des
Girondins. Il n'a pas parlé du plan social, hein. Il n'a pas eu de nombreux employés.
Mais alors, je défends Gérard Lopez. La survie du club était tellement importante que c'est vrai que ce plan social, on sait qu'il va avoir lieu puisque Bordeaux est descendu et ils ne s'en sont pas cachés. C'était prévu. Hein. Une centaine d'emplois vont être supprimés. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, l'actu immédiate, c'était pas ça.
C'est là, moi, où j'en veux aux joueurs. Alors, bien sûr, tous les ans, tout le monde, il y a toujours des clubs qui descendent, je suis d'accord. Mais souvent, pour avoir été dans des vestiaires, il y en a qui prennent pas conscience du drame qu'il peut y avoir, parce que c'est un drame, hein, de perdre son emploi, et puis il y en a au 30 juin, ils rentrent, ils changent de club ou ils repartent.
Et pour rien cacher, Seb, ça a été un problème aux Girondins de Bordeaux, vu qu'on a eu un recrutement très très cosmopolite. C'est vrai qu'on s'est demandé en fin de saison, quand le club était en train de couler, si certains joueurs prenaient vraiment conscience de ce qui était en train de se passer. Les gars, on a une légende des Girondins de Bordeaux avec nous en ligne. Alain Giresse nous fait le bonheur d'être dans l'after. Merci beaucoup, Alain, d'être avec nous. Et bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alain.
Alain, on imagine énormément de soulagement. Hein. Les Girondins de Bordeaux sont encore en vie ce soir et c'était pas gagné, on a envie de dire.
C'était pas gagné, c'est la meilleure des nouvelles, effectivement. La survie du club, parce qu'on sait derrière quelles auraient été les conséquences. Déjà, des deux, ça va déjà poser quelques problèmes. Mais en l'occurrence, voilà, donc le club existe toujours, il est là, il est en vie. Maintenant, c'était une victoire, mais c'est pas une finalité.
Ouais, qu'est-ce que vous attendez désormais des Girondins? Une reconstruction, restructuration totale? Et qu'est-ce que vous pensez du projet mis en place par Gérard Lopez et ses équipes?
Ben, c'est sûr que maintenant, le projet, il est simple. C'est de faire repartir ce club, de faire repartir cette équipe, de redonner à l'effectif tous les moyens pour pouvoir se sortir de cette deuxième division. Voilà, retrouver de la sérénité dans le fonctionnement du club et le relancer. On sait que ça va prendre du temps. Je pense que autour du club, il y a une belle mobilisation des supporters de la région, de tout le monde qui sont là pour justement apporter leur contribution. Donc voilà, le travail maintenant, ça va être d'avoir une équipe compétitive.
Alain, quand vous voyez tout ce qui se passe au Girondins depuis 4-5 ans, est-ce qu'il n'y a pas de la colère? Vous qui avez écrit l'histoire de ce club, qui était encore champion de France il y a 11 ans, qui jouait la Ligue des Champions, est-ce qu'il n'y a pas un peu de colère de voir comment ça a évolué?
Bah, la colère, vous savez, elle est venue à partir du moment où ce club est pris en main par ce que j'appelle les Américains et qui n'ont aucune idée de ce qu'est un club de foot, que sont les Girondins. Et voilà où on en arrive, avec une mise en place, une organisation qui a été complètement dramatique. Et puis, on est arrivé là, maintenant, avec en plus, avec des gros problèmes financiers et également aussi sur le plan sportif. De très très mauvais résultats, notamment cette 20e place la saison dernière. Donc on voit là que dans tous les domaines, le club a été complètement délabré.
Alain Giresse, légende des Girondins de Bordeaux et l'invité de l'After. Les gars, est-ce que vous avez une question pour Alain Giresse?
Oui, bonsoir Alain. Quand vous entendez le Gérard Lopez qui se félicite d'avoir sauvé le club, qui demande qu'on le laisse travailler tranquille, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire de la méfiance ou plutôt de la confiance?
Moi, je reste toujours prudent. On peut pas rester prudent. Pourquoi? Parce que la saison dernière, effectivement, il y a eu, je relance la partie financière, où je ne rentre pas dans les détails parce que je ne suis pas capable de le faire. Mais sur le plan sportif, je pense que là, le sportif a malheureusement été très mal géré, très mal négocié en ce qui concerne la constitution de l'effectif, du staff, qui a fait que le club, sportivement, est descendu. Donc c'est là que maintenant, il faut faire attention à ce que, justement, on remette de l'ordre là-dedans. Et j'espère que l'équipe dirigeante saura le faire pour les échéances qui attendent l'équipe dans un championnat totalement différent de la D1, mais qui réclame qu'on soit capable d'y faire face.
C'est quoi la recette, Alain, pour reconstruire? Alors Bordeaux l'avait déjà vécu, hein, une relégation administrative au début des années 90. On se souvient, c'est là qu'avait émergé la génération du Gary, Lizarazu. C'est ça aussi l'importance de ce nouveau projet à Bordeaux, c'est de miser sur les jeunes pour vous?
Ah mais attention, la différence qu'il y avait, c'est que Bordeaux n'était descendu que financièrement. Bordeaux avait fini 10e et que tous les joueurs avaient accepté de baisser leur salaire, de rester. Donc il y avait quand même une base concrète là. Sportivement, on ne peut pas s'appuyer sur ce que les restes de la saison dernière. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis parce qu'il y a beaucoup de joueurs rentrés. Il y en a qui vont arriver. Il y en a encore qui vont repartir. Donc, quelle va être la base de l'équipe? Il faut des joueurs de devoir, avec une conscience professionnelle. Voilà un état d'esprit qu'il n'avait pas. Donc, sur ce chapitre-là, il y a un grand chantier, un gros chantier à faire pour justement répondre à l'exigence de cette Ligue 2.
Dernière question, Alain. Est-ce que vous pensez vraiment que dans l'état actuel des choses, alors on sait que le dossier des Girondins de Bordeaux s'est nettement amélioré au niveau financier, on le détaillera tout à l'heure encore une fois, mais est-ce que les Girondins peuvent se redresser vraiment? Est-ce que vous y croyez vraiment? Parce qu'on se dit qu'ils partent, on se dit qu'ils partent de loin quand même là.
Ils partent de loin, mais bon. Là, vous faites appel à ma relation que j'ai avec ce club-là, qui me dit que j'ai toujours de l'espérance que ce club existe, que ce club soit toujours là, sans forcément gagner des titres, mais voilà, qu'il reste, qu'il redevienne ce qu'il a été, ce qu'il représente pour la région, la ville et tous ses supporters. Maintenant, oui, il faut être conscient que ça, il y a du travail, parce que je veux dire, certainement, on ne se rend pas compte que ce qui vient de se passer ces dernières années, vous l'avez dit, on essaie vraiment on crée des dégâts assez importants et qu'il va falloir du temps pour éliminer tout ça et s'en sortir.
Merci beaucoup Alain Giresse, légende des Girondins de Bordeaux, d'avoir été dans l'After. On vous remercie beaucoup.
Bonsoir.
Et on espère que les Girondins vont se relever. Alors c'est vrai que c'est pas gagné, les gars. Venez commenter, hein, d'ailleurs, auditeurs bordelais, les propos d'Alain Giresse, la déclaration de Gérard Lopez qu'on a eue tout à l'heure sur RMC. On le disait, c'est pas gagné. Alors moi, je voulais quand même saluer quelque chose, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Gérard Lopez, tout ce qu'il a pu faire, et moi le premier. Il y a eu une gestion, c'est vrai, désastreuse du sportif. Il y a eu des choses qui ont été faites avec des cadres écartés, je pense notamment à Benoît Costil, qu'on a toujours dénoncé sur l'antenne, mais il faut quand même saluer le boulot qu'ils ont fait avec leurs créanciers King Street et Fortress depuis 3 semaines. Ça c'est vrai quand même, parce que épurer 40 millions de dettes, faut quand même le faire.
Et c'est pas un signal très favorable à l'égard des futurs prêteurs. Si tu es un club qui ne rembourse pas pas ses dettes et qui demande à ses créanciers d'annuler leurs dettes pour réduire la santé de son entreprise.
Je suis d'accord avec vous.
N'importe quelle entreprise fait ça, n'importe quel ménage.
Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais dans une situation d'urgence, on va quand même louer l'effort qu'a fait Gérard Lopez de réinjecter des fonds. Il y a certains actionnaires qui se seraient désengagés.
Après Nico, il faut voir aussi
il y a certains actionnaires qui auraient pu se désengager.
Oui, non, oui, effectivement.
J'ai cru à un moment que ça allait se finir comme ça.
Pas dans le dossier. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils vont repasser comme devant la DNCG.
Oui.
Que là, il annonce 7, 8, 9 joueurs qui risquent d'arriver. Il faut voir comment ils vont pouvoir recruter déjà parce que est-ce que là ça va pas être encadré.
Alors tu fais bien de le dire. Juste, je précise ce que tu dis. Convocation mardi devant la DNCG et alors bien sûr il pourrait y avoir de potentielles restrictions. On parle d'interdiction de recrutement, mais c'est pas la tendance. Ce serait plutôt, si jamais restriction il y a, un encadrement de la masse salariale. C'est pour ça que Gérard Lopez nous disait tout à l'heure, on espère pouvoir travailler librement.
Tu sais, de travailler dans l'urgence c'est jamais bon. Alors j'espère qu'ils ont anticipé logiquement ce scénario puisqu'ils espéraient rester en Ligue 2.
Ils avaient prévu une 8e place en Ligue 1.
Je suis d'accord, mais là, moi, je parle du présent et du futur proche. Et surtout, l'an dernier, ils s'étaient trompés dans le recrutement, dans le sens où ils avaient pris pas mal de joueurs étrangers, donc on ne savait pas si ça allait prendre la Ligue 2. C'est vraiment très, très spécifique. C'est un championnat hyper homogène, très, très dur. On voit qu'il y a énormément d'anciennes écuries de Ligue 1 quand ils descendent, qui mettent du temps à remonter, qui ne sont toujours pas remontées. D'ailleurs, on parle du Havre, de Sochaux, voilà, des clubs quand même importants de notre championnat. Et il y aura de la concurrence. Il n'y a que deux montées. On sait qu'ils vont recevoir une tonne de CV parce que c'est vrai que Bordeaux, ça reste attractif. Oui. Les deux, ils vont avoir normalement l'un des plus gros budgets ou le plus gros budget.
Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en attente de savoir ce qui allait se passer à Bordeaux.
N'importe quoi, à prendre des noms ronflants. Je pense que c'est un championnat pour le suivre régulièrement. Il faut prendre des joueurs un peu aguerris à ce championnat-là.
C'est le projet.
Quelques revanchards et puis surtout laisser aussi de la place à des jeunes.
Le projet le 31 juillet, quoi. Donc
non, c'était le projet. C'était le projet avant.
Parce que le projet la semaine dernière, c'était sauver le club. Donc depuis deux jours, c'est.
Non,
c'est
pour le coup, c'était le projet dès la fin de la saison avant les passages devant la DNCG.
Je vais
même te dire, Thibaut, David Guillon, lorsque les Girondins descendent, on va le voir en conférence de presse avant le dernier match qui compte pour du beurre, je me rappelle même plus de l'adversaire.
David Guillon, il est héroïque dans cette histoire.
David Guillon, il nous dit, voilà, l'objectif, ça sera de reconstruire avec des joueurs d'expérience pour la Ligue 2, qui ont l'habitude de ce championnat-là. Donc, ils se sont mis d'accord avec Gérard Lopez. Ça, c'était le projet. Les gars, marquez là pour le round 2 avec Thibaut. Voilà, la petite clochette du boxeur. Salut Marc, tu nous as attendu paisiblement au 32-16. C'est beau ce que tu as fait.
Bonsoir,
Marc. On a bien compris tout à l'heure. On voulait te laisser terminer parce que toi, dans ce que tu nous disais, t'es plutôt un défenseur de Gérard Lopez et on a compris que t'étais plutôt très satisfait de ce qu'il avait fait pour sauver ton club.
L'émission libre, il a le droit de s'exprimer.
Bien évidemment.
Je suis pas vraiment un défenseur. C'est-à-dire que moi, si dans deux ans il m'annonce qu'il s'en va, je pense que je serai aussi content. Parce qu'il y a des choses que je tolère pas, mais ce qui m'agace, c'est d'avoir des accusations qui ne sont pas liées à des actions de Lopez. On peut parler de Cacostil, on peut parler de la gestion humaine au Hayan, le fait que les joueurs sont moins accessibles qu'avant, mais ça a commencé déjà sous Laurent Blanc, donc ça commence à faire un moment pour ceux qui suivent les Girondins de Bordeaux.
Donc en fait, Lopez, il est responsable de quoi dans l'affaire? Pour toi, il est responsable de quoi?
Lopez, il est responsable
de l'élection
en Ligue 2. Déjà. Ouais, très clair. Parce que quand il prend Bordeaux, avec un effectif qui n'était pas fabuleux, hein, parce que l'année d'avant, on avait un peu pleuré.
Il promet un top 8 quand même, donc, et l'Europe de la saison suivante.
On peut en parler pendant des jours. Il a promis ce qu'il a voulu. Ils ont fait un recrutement qu'ils ont pensé bon. Ils se sont foirés du début à la fin. Après, je pense que cette équipe, avec un pâle niveau pour être à ce point-là, dernière du championnat, avec je ne sais pas combien de buts, 89 buts encaissés, c'est un grand délire. Si on avait un préparateur physique digne de ce nom, je suis sûr qu'on sauve.
Ouais, mais ça, c'est de la faute de l'équipe dirigeante, quand même, Marc. Ça, c'est de la faute. Alors, c'est bon, pour le coup, je pense pas que ce soit de la faute directement de Gérard Lopez. C'est de la faute d'Anne-Mar Lopez, le directeur sportif.
Oui, mais qui c'est qu'il a mis en place,
directeur sportif. Non, mais voilà,
mais
ça, c'est l'équipe dirigeante, ça, pour le coup.
C'est la faute du tribunal, c'est la faute de la DNCG, c'est la faute du CNOSF.
Est-ce que je viens de dire que c'était pas la faute de Lopez si on était en Ligue 2?
Mais je répondais à Sébastien, en l'occurrence. Et donc, quels sont les points positifs de la gestion de Lopez, alors? Je t'écoute.
Donc, déjà, la gestion est que financière. Purement que financière. Quand il reprend le club il y a un an,
Le club, c'est une catastrophe économique, laissée par GACP, à qui on fera un grand merci, et à M. Dagrossa, et à tous ceux qui lui ont fait un pont d'or pour qu'il vienne à Bordeaux. Mairie, politique, les mêmes.
Ça, t'as complètement raison, Marc.
Sauf que ce qui est quand même bizarre, c'est dans le dossier de rachat, quand tu regardes dans le détail du dossier de rachat, on se rend compte qu'en fait, que Lopez, il a acquis le club en augmentant l'endettement, pas en le baissant. Parce que l'endettement, il n'est pas de 80 millions, comme tu disais tout à l'heure. L'endettement, il est de 40 millions. Il y a 40 millions de fonds propres et 40 millions d'endettement. Et pour racheter le club, il ajoute 13 millions d'endettement pour pouvoir acheter le club. Donc en réalité, l'endettement au moment de l'acquisition augmente. Bon, alors au moment du Covid, on était tous épidémiologistes. Au moment du réchauffement climatique, on est tous climatologues. Maintenant, on est tous directeurs financiers.
Voilà, 23h42, vous m'avez perdu sur les chiffres, mais allez-y. Hein.
En fait, il ne faut pas confondre endettement et fonds propres. Pourquoi? Parce que l'endettement, ça appartient à la banque. Tu es remboursé plus vite. Quand tu es fonds propres, tu es actionnaire.
Mais ils vont jouer. C'est de sous,
mais tu n'es pas remboursé. Mais t'es pas remboursé. Donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es King Street? Ben, tu rajoutes 13 millions, mais cette fois-ci, en tant que créancier. Comme ça, t'es sûr d'être endetté avec un taux d'intérêt, si possible, le plus élevé possible. Et c'est dans ce sens-là que, laisse-moi juste terminer, Marc, après, je te laisse répondre.
Laisse terminer Thibaut, Marc.
C'est juste ce sujet-là, ce que je veux dire là, c'est pas pour pointer du doigt un auditeur, peu importe. C'est pour dire que Gérard Lopez, il a un don, c'est qu'il a le don de l'enfumage. C'est-à-dire qu'il a le don d'entretenir le flou. D'entretenir, un coup, il dit qu'il l'a sauvé, un coup, il dit qu'il l'a pas sauvé. Admar Lopez, c'est pas de sa faute. Costil, c'est pas de sa faute. C'est la faute des ultras, c'est pas la faute des ultras.
Il remercie tout le monde.
Et au moment de saluer, dans la communication, en mon sens, un peu désastreuse d'aujourd'hui, au moment de remercier tout le monde et au moment d'intervenir dans le débat public, il n'a pas un mot pour les salariés. Pas un mot pour les salariés. Il a des mots pour tout le monde, pour les ultras, pour les joueurs, pour les supporters. Pas un seul mot pour le plan social qui va se négocier l'année prochaine. Donc, il y a un moment, je veux bien qu'on le défende. Je veux bien qu'on dise, quel héros, il a repris club, etc. Il a repris club avec l'argent qui n'était pas à lui. Une grande majorité, 85% d'endettement. Il a très peu de fonds propres. C'est d'ailleurs un des problèmes avec la DNCG, c'est que lui a reproché la DNCG et les réponses qu'il a apportées n'étaient pas assez claires. C'est la raison pour laquelle la DNCG, une première fois au moment du rachat et maintenant au moment de l'appel, a répété la même chose. Et c'est la raison pour laquelle la DNCG s'est opposée à ce modèle économique. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure rapidement, parce qu'on ne va pas faire 3 heures sur le modèle économique des Girondins de Bordeaux, mais simplement de dire qu'il y a des doutes qui sont légitimes et qu'il y a une prudence qu'il faut avoir à l'égard de Gérard Lopez. Et ce que je lui reproche, c'est d'envoyer ça un peu d'un revers de main, comme si tout ça c'était des histoires de bureaucrates et que lui, il voulait vraiment sauver le club. Non, il est aussi responsable que les autres de la situation de quasi liquidation dans laquelle était le club il y a encore 2 jours.
Alors bien évidemment que Gérard Lopez fait partie des responsables. Pour moi, attends Marc, je te donne la parole tout de suite. Okay. Pour moi, je voulais juste pondérer quand tu disais que il a quand même avoué, Gérard Lopez, avoir fait des erreurs cette année face à la presse, devant nous, il s'en est pas caché, il a assumé certaines choses, il a dit qu'il s'était trompé.
Mais oublions Gérard Lopez, parlons du modèle.
Je suis d'accord, mais voilà, moi je voulais juste pondérer sur ça. Très court, Marc, je te laisse la parole.
Très rapidement, je vais faire très court.
Et un petit mot sur le sportif. Est-ce que tu es optimiste pour cette saison quand même? Allez, très court.
Parce que bon, on peut m'expliquer ce qu'on veut. Quand GACP rachète le club, King Street et Fortress sont créanciers du club. Donc, on va dire qu'ils jouent le rôle de banque. Il y avait bien 80
millions. Pas King Street. King Street a 40 millions de fonds propres.
Non.
Bah si, ça change tout. Si tu dis qu'il y a 80 millions de dettes, ça change tout. Non, c'est pas vrai. C'est 40 millions de fonds propres et 40 millions de dettes. Et ça change tout, ça. Ça veut dire qu'ils sont actionnaires, donc propriétaires en partie du club.
Thibault, laisse terminer, Marc.
Eh, mais là, c'est faux. Donc,
Non. Moi, je remonte à GACP. Toi, tu remontes à quand King Street met GACP dehors et devient propriétaire du club.
Non, je remonte au moment du rachat de Gérard Lopez.
Mais les gars, là, vous êtes en train de perdre tout le monde. Vas-y, Marc. Où est-ce que tu veux aller rapidement?
Écoute-moi, c'est très simple. Quand le club est acheté par GACP, avec 2 créanciers, Fortress et King Street, il y a 80 millions d'endettement, 2 millions d'apport.
Non, il y a 40 millions de fonds propres.
Non, parce qu'il n'y a pas 40 millions de fonds propres.
Bon, les gars.
Parce que toi, tu considères 40 millions de fonds propres. Excuse-moi, je te tutoie.
C'est pas moi, c'est le commissaire au compte. Hein.
Les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va donner vos coordonnées et vous allez débattre des chiffres. Non, Marc, je voulais juste entendre. Marc, on laisse ça de côté. Je voulais juste entendre de façon très courte, 10 secondes sur le sportif. Est-ce que tu y crois cette année à la reconstruction?
Non, moi, je crois pas à la remontée pour une simple et bonne raison. C'est que, et ça sera la même chose pour Saint-Etienne, c'est que tout le monde va attendre Bordeaux et Saint-Etienne comme les deux équipes à absolument battre cette année. Je pense que ces deux clubs-là, et donc j'intègre Bordeaux, ne sont pas prêts. Alors, je ne connais pas encore la nature du recrutement. Je changerai peut-être d'avis quand on aura acheté des joueurs et vendu tous nos indésirables.
Hein. Bah, je te parle à l'instant T.
Il y en a un bon paquet qui sont dans l'offre à attendre d'être vendus. On va attendre de savoir si on reste en Ligue 2 ou en National. Donc, c'est hyper flou. Aujourd'hui, à l'état actuel, au vu de l'effectif, non. Et je pense même qu'on est plutôt pour se battre, pour se sauver. aujourd'hui, à l'heure actuelle. On va voir ce que le recrutement va donner. Mais on n'avait pas des foudres de guerre l'année dernière. Nos jeunes sont à un niveau correct, mais ne sont pas prêts pour la Ligue 2. Donc je pense maintenant à une saison compliquée. Il y a 4 descentes, c'est très compliqué, il y a que 2 montées. Donc je pense qu'il va falloir plutôt regarder en bas d'abord. Avoir, moi je vois qu'il y a beaucoup de supporters bordelais qui sont un peu trop sur d'eux.
Marc, t'as pété le timing des 10 secondes là, hein, je crois. Hein. Je tiens à te le dire. Bon, merci beaucoup. On a compris. En tout cas, c'est vrai que t'es pas super optimiste pour le sportif pour le moment. Au moment où on en parle, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a match nul. Hein. Après le round 1 de tout à l'heure, il y a encore match nul.
Bon, on a 2-0 là. Pour moi,
ouais, je savais qu'il y avait
perdu
ça.
Là pendant 10 minutes.